sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et derrière la vitre, il y a Enrico Mastro Giovanni. Et dans le studio, nous avons trois personnes. Et aujourd'hui, c'est Fred Gournay, l'auteur de Métaphysique du rock, qui va nous présenter les invités. À toi, Fred.
Merci, Yves. Bonjour, Marc Dufaux. Bonjour, Frédéric Lowe. Voilà, nous avons le plaisir et l'honneur de vous recevoir aujourd'hui pour un livre qui vient de sortir de Marc Dufaux, qui s'appelle Close Up Daniel Darc, Je me souviens, je me rappelle, qui est en quelque sorte un livre hommage à Daniel Darc, mais pas seulement. C'est aussi un livre sur une œuvre à part entière, sur le cinéma, l'amitié, la ville, Paris évidemment, mais aussi sur la fraternité et la foi. Alors bonjour Marc.
Oui, bonjour.
Alors, comment t'es venue la nécessité de ce livre sur Daniel Darc principalement, mais pas seulement, puisque tu as été déjà, t'avais déjà sorti en 2019 au cinéma Pieces of My Life, qui a connu un certain succès critique et public. Donc, d'où est venue l'idée de ce livre ?
Plus ou moins après la sortie du film. En fait, c'est venu au départ de l'idée de. On m'avait proposé de faire éventuellement un carnet de route. Quand on a fait le film, on a fait beaucoup de projections en province, et en me disant, essaye de tenir un carnet de route, et puis de faire quelque chose là-dessus. Et puis, comme j'avais tenu aussi un carnet pendant toute la réalisation du film, tout le montage qu'on a fait, j'ai replongé dans les notes, etc. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas... Il manquait des choses, quoi, voilà. Alors, l'idée est venue, m'est venue de me dire, mais pourquoi je parlerai pas plutôt des films que j'ai fait avec Daniel, et puis, à travers ça, parler effectivement de l'histoire de... d'amitié, etc., et de refaire le parcours. Voilà. Et c'était l'occasion aussi pour moi de parler de cinéma, de comment on faisait des films dans les années 90. C'est des choses qui ont beaucoup, beaucoup changé avec le numérique. Donc voilà, quoi. C'était l'occasion de mêler les deux et de ne pas faire un bouquin hommage, quoi, pour le coup, de faire quelque chose de contemporain, mais qui parle du passé.
Alors, comment tu as rencontré Daniel Darc? À quelle époque?
C'est dans le livre.
Ouais, donc, pour nos auditeurs qui n'ont pas lu forcément.
Non. En fait, c'est toute l'histoire du livre. En fait, j'ai voulu. Je suis remonté jusqu'à mon enfance pour un petit peu indiquer le parcours, comment j'en arrive à ça. Et en fait, je l'ai rencontré donc je les vois en 90. En fait, c'est assez. Je vois ces clips, je tombe sur ces clips en gros. Voilà, je vais à Nuro, je tombe sur un disque. Et puis je vais le voir en concert. Et vraiment, le déclencheur du film, c'est ça. Ça a été le concert du Gibus.
Donc on est en 1990.
Mai 90, ouais. Je sors du concert et je me dis, je veux faire un film. Je faisais des études de cinéma à l'époque. J'avais réalisé un premier court-métrage. Et voilà, avec un tas d'idées radicales, etc. derrière ça. Mais j'avais envie de faire un film rock. Voilà, comme je faisais pas de musique, je me suis dit, bah, je vais faire un film. Et alors l'idée, c'était de faire un film un petit peu radical, justement, mais surtout hors système. Et c'était quand même une époque où j'étais très inspiré par les films d'Anger, de Kenneth Anger, de Jonas Mekas, etc. Donc c'était un petit peu, voilà, la démarche, elle était plutôt là-dedans. Et donc j'ai fait un petit scénario, j'ai mis presque une année à trouver Daniel parce que tout le monde l'avait vu, mais personne ne savait où il était.
Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet.
Non, il n'y avait pas de portable. Voilà. Il y avait à peine de Minitel, je pense.
Ouais, ouais. Puis,
voilà. Mais en même temps, c'était ridicule parce que son numéro, il habitait à nouveau chez ses parents, le numéro de ses parents était dans le bottin. Donc voilà. Et donc, c'est une espèce de hasard très, très curieux qui m'a. J'ai pu lui faire passer mon projet par un événement. J'étais très curieux. Et on s'est rencontrés, et puis voilà.
Non, ouais, c'est là que ça a commencé. Alors, tu le dis d'emblée, hein, dans ton livre, dans tes films. Ouais. Tu le répètes, cette rencontre a changé ta vie.
Hein. Ouais, forcément. Ouais.
Voilà. Mais avant de le rencontrer, t'as eu une autre personne hyper importante dans ta vie, c'est Elvis. T'as
rencontré Elvis avant.
Tu l'as pas rencontré, mais il y a eu un.
Parce que j'étais enfant, j'avais 11 ans. Et en fait, j'ai connu Elvis à sa mort, quoi. Donc. En fait, Daniel avait écrit dans la préface de mon roman qu'Elvis avait raccourci ma vie, il l'avait changé, quoi. C'est peut-être, on verra, mais ça a changé beaucoup de choses. Je suis né à Paris, mes parents ont été contraints de quitter Paris et de vivre en province, donc j'ai très mal pris ce que j'appelle le jet lag. Et puis voilà, on avait l'ennui à l'époque, ça existait, tu vois, quand tu t'ennuyais ferme, quoi. Mmh. Et la musique, voilà, et Elvis est arrivé, et ça a changé vraiment beaucoup de choses. Ouais. Mais ça a tout changé d'ailleurs. Voilà.
Alors, j'ai une question un peu difficile. C'est quoi pour toi le rock'n'roll? Je t'ai prévenu.
Ouais, je sais pas. C'est une attitude, c'est une façon de vivre. C'est tout sauf un riff de guitare, c'est ce que je dis. Je sais pas. C'est à la fois un chemin. C'est pas forcément. C'est plutôt une voie qu'une destination, quoi. Enfin, qu'un lieu où tu arrives. Et puis, je sais pas. C'est compliqué parce que moi, le rock, finalement, c'est pas tellement par la musique. Enfin, je suis pas musicien, donc. Mais il me semble que ça se limite pas à ça, justement, quoi. Donc c'est une façon de vivre, et en même temps c'est ce qui te permet qui te donne accès à d'autres choses, qui t'ouvre sur d'autres choses qui n'ont pas à voir avec le cinéma, etc. Par le rock tu apprends, voilà, c'est une voie.
Mais Daniel disait que c'était plus fort que le cinéma, plus fort que la littérature. Ouais. Tu y crois, ouais, à ça ?
Non, mais ça fait partie des jolies phrases, ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Ouais, c'était bien, le rock'n'roll plus fort que le cinéma. Parce que ça ne promet jamais de fin heureuse, voilà.
Alors ton cinéma, hein, donc tu as trois films, Les Enfants de la Blanque, Garçon Sauvage et Pieces of My Life.
Et Rêve-Cœur.
Et Rêve-Cœur, qui est un documentaire, enfin pas un documentaire, mais un film commandé, ouais, par la télévision, c'est ça ?
Non. Non. C'est Fred, quand il a fait l'album avec Daniel, Frédéric Lowe, qui est là, oui. qui m'a proposé de faire un. Alors à l'époque, ça s'appelait un EPK, genre un kit de promotion.
Ouais. Un making-of, c'est ça ?
Ouais, mais alors en me laissant une carte blanche pour faire ce que je voulais.
D'accord.
Donc j'avais pas les contraintes ordinaires de faire, enfin voilà, c'est un petit peu les explications, c'est un petit peu formaté, etc. Donc ils nous a laissé complètement libre de faire ce qu'on voulait. Et donc voilà, ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Ouais.
Et donc tu viens un peu du cinéma expérimental, de la nouvelle, ouais, vague. Alors en quoi tu es aussi tributaire du rock, du punk dans ta démarche cinématographique ?
Bah, je pense que c'est... Je me vois pas, tu vois, je me vois pas travailler avec une équipe, avec un énorme budget. J'ai toujours eu une démarche do it yourself, quoi, tu vois. Et je pense que c'est même ma limite, d'ailleurs. Parce que le livre est aussi sur une espèce d'échec, quoi. Enfin, traite aussi de, parce que le projet a été porté. À un moment donné, on a eu une boîte de prod qui s'est mise dans cette énergie-là, etc. Mais ça se passe très mal. Mais chacun sa part de responsabilité. J'ai la mienne. Donc je pense qu'il y a un moment donné, voilà, c'est ce qui m'attire. C'est aussi ma limite, quoi, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que après Les Enfants de la Blanque, j'ai sèchement arrêté, quoi. Tu vois, le film qu'on a fait avec Thierry, on a mis 4 ans, ça a été quand même éprouvant, quoi. Tu vois, donc ça demande un engagement, pas du temps. Et donc ta question, tu me disais où
l'emploi? Non, en fait, tu refuses quand même, tu as une démarche assez radicale, parce que tu refuses le business et aussi les aides d'État, les financements, les commissions.
Je refusais à l'époque. Hein,
et tu dis...
Enfin,
tu...
j'avais pas à les refuser, ceci étant, parce qu'on les a jamais... Quand on a, pour le Pieces of My Life, on a été supporté par Sombrero Productions, et qui a cherché à avoir des aides, et on n'a rien eu. Donc, par contre, on a décidé de le faire avec ou sans aide, ouais. Et donc on est passé par un crowdfunding, etc., quoi. Mais en 90 ça n'existait pas, donc j'ai fait totalement différemment. Et c'était une rencontre qui te permet de trouver une salle de montage. Et la responsable de Fuji qui me dit je vous donne de la pellicule. Enfin voilà, c'est tout ce système-là qui existait à l'époque et dont j'ai voulu parler aussi. Ouais.
Oui, il faut rappeler qu'à l'époque, donc il y a pas numérique. Donc faire du cinéma, ça coûte cher, c'est lourd, les caméras elles sont lourdes, la pellicule coûte très cher.
Ouais, cher le développement.
Il faut 4-5 personnes ou 3 minimum. Donc maintenant c'est difficile de représenter ça, parce que maintenant avec un iPhone on fait un film, voilà. Et puis on a surtout une capacité d'enregistrement qui est infinie. Donc il n'y a pas à compter les heures.
Non, mais voilà, ça change tout.
Donc ça change tout. Et est-ce que tu crois que c'est vraiment un progrès ou...
Je ne sais pas, je pense que chacun fait, il faut faire avec son époque, quoi, tu vois. Donc,
bien sûr.
Ouais, je ne sais pas, non, je pense que ça a d'autres limites, quoi, tu vois. Et justement, la profusion est presque une limite, quoi. Parce que ça devient un vertige, quoi.
Ouais, l'abondance, Bowie, par exemple, l'excès.
Je sais que Bowie refusait de... Il mixait tout ensemble pour justement plus avoir cette possibilité de réarranger, etc.
Après, ils fondaient les pistes
tout,
voilà,
de suite.
Ouais, pour pas passer des heures à retoucher la caisse claire.
Voilà, je trouve ça très bien parce que c'est...
Ah ouais, je ne connaissais pas ça, cette histoire.
Et voilà, donc c'est après c'était excitant aussi de cinéma à l'époque, enfin tu vois la pellicule, moi j'adorais ça quoi, tu vois, mais bon le numérique, on a fait tout le Pieces of My Life au numérique, c'était finalement le banc de montage, il est virtuel, mais c'est exactement le même genre de manip quoi que tu fais quoi, tu bouges les images pareil, t'as un chutier virtuel, mais c'est la même chose quoi, donc il y a des évolutions, il y a plus de liberté dans l'approche. Après, financièrement, je pense que quand tu commences à vouloir mettre en place quelque chose de... Tu peux faire des films cheap, mais le numérique, ça commence à coûter... Enfin, tu vois, il y a d'autres frais qui sont aussi onéreux pratiquement que le cinéma argentique, quoi.
Alors parlons justement de numérique et d'écran. On est saturé d'écran, on en a partout autour de nous. Ouais. Ça remplit complètement nos vies. Les téléphones, les tablettes, les ordinateurs... la pub partout où on va maintenant, dans un bar, il y a un écran, voilà. Donc on est entouré de ça, on est saturé de ça. Et tu évoques dans ton livre une prophétie de William Burroughs qui disait qu'attention, il y a une drogue qui va arriver, elle va être 1000 fois plus puissante que l'héroïne. Mmh. Et c'était tout ce qui était écran, et ça vient aussi d'Artaud. Artaud parlait d'hypnose généralisée, il parlait d'envoûtement, de dépossession de sa force vitale par les écrans. Donc toi, en tant que cinéaste, tu fais des images. Comment tu combats les images? C'est quoi ton rapport?
C'est plus un paradoxe, mais c'est-à-dire que c'est... Mais la musique, c'est pareil. Hein. La musique, ça avait un côté précieux avant. Mais maintenant, ça se déverse partout, tout le temps, etc. Et finalement, on ne fait plus attention. Il y a une perte d'attention et puis un envahissement. Et puis une immobilisation, quoi, parce que les gens sont carrément chez eux devant leur écran, effectivement. Ouais.
Mais même quand ils sont dans le métro, ils sont encore chez eux, puisqu'ils sont en train de regarder leur programme préféré, référencement, et les algorithmes cherchent pour eux ce qu'ils aiment. Ils vont dans ce sens-là, donc on ne sort jamais de ces représentations.
Oui, puis t'as tout qui va à l'avenant, effectivement. T'as des films qui sont faits aujourd'hui, il y a la tentation de faire des films d'après ce que les fans demandent, enfin, tu vois, ça devient un peu absurde, quoi. Mmh. Bah, je pense que c'est une responsabilité collective et individuelle, quoi, tu vois, c'est évidemment, c'est un business, c'est une culture du divertissement, mais c'est aussi aux créateurs et aux créatifs de faire attention et d'imposer des choses. Je sais que c'est compliqué, voilà, mais... Et moi, je dis ça, je fais plus d'images, donc enfin, je fais un clip.
Tu fais des clips encore,
Jean-Luc? Oui, mais c'était vraiment pour Cœur Sacré, pour qui vient de sortir. Oui, j'avais très envie de le faire en plus. Et c'est vrai que tu vois, j'ai passé une semaine à le monter avec un monteur, et c'est vrai que c'était super excitant à nouveau de faire des images, quoi. C'est pas un paradoxe, mais je pense qu'il y a des images qui, justement, arriver à faire des images qui se voient aujourd'hui, c'est presque plus compliqué qu'avant, parce qu'il y en a partout, quoi. Donc c'est là qu'il y a un truc intéressant à faire.
Alors, au cœur de ce livre, il y a évidemment, au cœur de ta vie, il y a donc cette amitié avec Daniel Darc. Moi, j'ai eu un peu la chance de le connaître, un peu pas autant que vous, pas autant que Fred et pas autant que toi, Marc. Mais si je te dis que Daniel ne croyait pas en l'amitié, mais seulement à la fraternité, est-ce que tu crois que c'est ça?
Oui, c'était pas... Non, il n'y a pas d'amitié. Daniel, j'ai consacré un chapitre à ça. Où je dis qu'il n'était pas doué pour l'amitié, mais pour la fraternité, voilà. Mais qu'en même temps, il avait aussi la fraternité volatile, quoi. Mais c'est toute une démarche chez lui. Mais parce que c'était forcément quelqu'un de complexe. Donc, l'amitié ne l'intéressait pas, je pense.
Alors on va resituer un petit peu Daniel Darc pour ceux qui auraient vécu sur une autre planète ou dans une grotte pendant plusieurs années. On va écouter Paris. De Taxi Girl, et je pense que c'est la fin de Taxi Girl à Paris, on est en 86,
ouais, 84.
À 84.
C'est dans les paroles.
Voilà. Et oui, bien sûr, évidemment. Et donc on va écouter un extrait, et ça va nous remettre dans l'époque et dans le son de Daniel Darc.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Paris, respire le bon air, mais fais gaffe quand même, tous les jours passion et marche dans les rues, va au hasard. À n'importe quel coin, n'importe quelle rue, tu rencontreras n'importe quel type qui te proposera n'importe quoi. Des diamants, si pur, mais prends-les dans tes mains, jette-les par terre, tu verras, ils se brisent comme du verre. C'est Paris, à Paris rien n'est pareil. Tout a tellement changé que ce n'est même plus une ville, c'est juste une grande poubelle. Et la poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris, et à Paris y a rien à faire, juste marcher dans les rues pendant qu'il fait jour, et attendre, attendre qu'il fasse un peu plus chaud, qu'il fasse un peu d'amour. B A R I S Paris. On ne sait pas ce qu'on attend, mais ça n'a pas d'importance parce que ça ne viendra pas. C'est Paris 1984, belle année. Nos parents veulent l'Espagne, mais qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Le Liban? Oh, il fait trop chaud là-bas. Marc, ici il fait un peu froid. Mais ça, aucun radiateur au monde n'y peut rien. Il fait froid dans nos têtes. C'est pas Tokyo, Londres, New York ou Amsterdam, non. Non, c'est Paris. Et à Paris, y a rien à faire. Paris de nos rêves. La poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il y a plus de place pour nos déchets à nous. Il reste rien à faire, juste marcher dans les rues et attendre qu'il fasse un peu plus chaud, ou qu'il fasse un peu plus jour, ou qu'il fasse un peu d'amour. Oh, ville de mes rêves, que diras-tu demain quand tu seras seul, pourri, des ruines un peu partout? Tu sais comment j'écris ton nom? T'appelles Paris? Paris? P-A-R-I-S. Non, 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 non. Paris, ça s'appelle M-E-R-D-E. Tu sais, tu devrais trouver quelqu'un qui remplisse ton cœur d'amour ou de calmant, enfin de quelque chose. Parce qu'on arrive par erreur, par hasard et trop tard. Et la poubelle est pleine depuis si longtemps. Y'a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris, Paris, ville de nos rêves. Et à Paris, y'a rien à faire, juste marcher dans les rues.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Marc Dufaux pour son livre Daniel Darc, Je me souviens, je me rappelle, et de Fred Lowe, qui est un compositeur, interprète, producteur, chanteur, qui fait plein de choses, et qui a bien connu lui aussi Daniel Darc. Donc bonjour Fred.
Bonjour.
Tu peux nous dire comment tu as rencontré Daniel?
Écoute, la première fois que j'ai rencontré Daniel, j'étais très jeune, c'était en 1980. J'étais voir il y avait un festival au Paillon Baltard à Nogent-sur-Marne qui était organisé par une grosse radio. Et il y avait un peu, chaque week-end, il y avait pendant 2 mois toute la scène rock et de l'époque, internationale et un peu française. Et j'avais une sœur aînée qui était de 7 ans et demi, mon aînée, qui était avec un journaliste à l'époque et qui écrivait à Best et au Monde. Et donc, j'étais là, et Daniel et Pierre, le batteur, Pierre Volson, le batteur de Taxi Girl, sont venus vers nous parler à Alain Vess, avec qui j'étais. Et c'est la première fois que j'ai vu Daniel.
Et ça a été et sa musique, à quel moment tu as rencontré? C'est à ce moment-là, c'est à coïncider, la découverte de sa musique?
En fait, par une chance énorme, justement, comme j'avais cette sœur aînée qui écoutait beaucoup de rock, écoutait le Velvet Underground ou les Stones, ou j'étais avec eux, et mon beau-frère recevait tous les disques, et donc dès 77-78, j'avais la chance d'écouter tout ce qui sortait avant que ça sorte. Et comme j'avais très jeune, j'ai eu une appétence pour la musique, Je ne sais pas comment j'ai découvert...
Ça veut dire que tu t'entendais les Stinky Toys, Asphalt Jungle, donc Taxi Girl,
Market
Sad.
Ouais. Et puis tous les trucs afterpunk ou même le punk. Je me souviens d'écouter London Calling des Clash avant qu'ils sortent ou d'aller voir les Talking Heads en concert. Et donc j'ai vu plusieurs fois Taxi Girl à l'époque en ayant seulement 12, 13, 14 ans.
Ouais. Donc ça marque, j'imagine.
Oui,
enfin,
ça,
pas seulement lui, mais toute la scène, tout ce mouvement, le punk en général, et puis la new wave qui est arrivée après.
Après, je pense que chaque génération a forcément la musique de sa génération, mais c'est vrai que quand même, c'était une époque où il s'est passé énormément de choses, et j'ai eu la chance de la vivre un peu, pas de la vivre, mais de... la découvrir vraiment au moment où ça se faisait. Donc voilà.
Alors Marc dit dans son livre, il écrit, et très bien d'ailleurs, que c'était la première fois que le mouvement français n'était pas en retard sur les Anglais, et que c'était simultané quasiment. Les Stinky Toys jouaient à Londres, ils étaient considérés, écoutés, et il y a eu c'était immédiat, on est en 76-77, il y a le punk à Londres et le punk à Paris.
Bien sûr, mais en même temps, il faut quand même admettre que le punk est quand même... a été inventé par les Américains.
Daniel Guéret, New York.
Et que Malcolm McLaren, c'est en manageant justement les New York Dolls, s'est emparé un peu du mouvement et l'a fait d'une façon un peu plus sexy, peut-être plus... ou plus fashion, en montant avec sa femme Vivienne Westwood, en montant la boutique sexe. Et c'est sûr qu'il y a quand même eu... Quand vous écoutez, par exemple, le premier album des Clash, moi, quand j'étais gamin, je découvrais ça, donc je me disais, waouh, c'est dingue. En fait, ça ressemble comme deux gouttes d'eau aux Ramones, soniquement parlant. Donc, de dire que ça a été inventé...
Non, moi, j'ai pas
dit
ça.
Je pense que c'est plus des mouvements qui sont un peu comme des idées, qui sont un peu... Ouais. C'est comme dans des grandes découvertes scientifiques, à un moment donné, d'une façon de synchronicité, plusieurs personnes découvrent la même chose au même moment.
Ouais. Non, c'était juste le premier... C'était pas la ramasse, en fait, en 77. Ouais. Je me rappelle avoir vu
non,
des
mais
punks et...
Je pense c'est marrant parce que... je me suis rendu compte vraiment de ça en travaillant dernièrement avec Peter Doherty. C'est que souvent, les anglo-saxons, évidemment qu'ils ont découvert, ils ont été moteurs, les londoniens ont été moteurs du rock dans les années 60. Et évidemment que le blues ou que le début du rock'n'roll est américain, mais en fait... Quand on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Une fois, moi, j'étais par exemple à une fête basque et d'un coup, j'entends un orchestre basque jouer et d'un coup, je me rends compte qu'en fait, ils font une sorte de folk quasiment cajun. Et donc, d'un coup, en me renseignant, je me suis rendu compte que les Basques, qui étaient des grands navigateurs, ont été aux États-Unis, en Louisiane, très tôt. Et donc, en fait, quand vous écoutez le folk, il y a aussi de la musique italienne, il y a aussi de la musique irlandaise. Et en fait, c'est un mélange de tout ça. C'est un peu comme se dire, voilà, évidemment que le reggae était inventé ou le rocksteady était inventé en Jamaïque, mais en même temps, dans toutes les îles autour aussi. Donc, c'est... Et je pense que c'est aussi un mélange de tout ça. Et aussi la pop musique que j'ai aimée fondamentalement, les disques des années 50, des années 60, Sinatra. Sinatra, c'est un Américain, mais c'est aussi un Italien. Et puis il y a aussi l'influence énorme de Gershwin, il y a aussi l'influence énorme des compositeurs français du XXe siècle. Donc c'est vraiment une sorte de ping-pong, de résonance un peu mondiale.
Et puis, il n'y a rien n'est plus libre que la musique. Elle suit les mouvements des migratoires, elle suit les migrants.
C'est ça.
Et ça communique avant même les idées, avant même les convictions, avant même les croyances. Ça passe beaucoup plus vite.
C'est ça.
Il n'y a rien de plus poreux que, finalement, l'univers musical. Ça c'est pas étendu du tout. Ça n'arrête pas d'échanger.
Évidemment, je ne parle pas de l'Afrique, évidemment. L'influence de l'Afrique sur le rock'n'roll est évidente.
Ouais. Alors, on va revenir un peu à Marc. Donc toi, ta culture musicale, c'était rock'n'roll, en fait, c'est Elvis.
Ouais,
et t'es pas trop dans la New Wave
Si, quand même,
d'accord.
Non, je suis assez éclectique.
D'accord.
Mais d'ailleurs, pour revenir sur ce que disait Fred, je viens de faire un livre sur la... C'est bizarre, mais sur la musique antillaise, tu vois. Et effectivement, ce dont il parle, c'est exactement ce que je raconte dans le bout, ce que j'ai découvert en travaillant sur ce livre. Je connaissais... et c'est exactement ça. Dans toutes les îles des grandes Antilles, c'est des mouvements de musique qui circulent avec des influences. Ouais, c'est très poreux, quoi. Ouais, effectivement. Donc, ouais, non, mais j'écoute beaucoup de... J'ai quelques héros comme ça, voilà, des gens que je suis tout le temps. J'écoute tout. C'est vrai que j'écoute beaucoup moins de choses contemporaines aujourd'hui, enfin, de ce qui sort aujourd'hui. Par contre, j'ai des gens que j'écouterai tout le temps, quoi. Je sais pas, des gens comme Peter Perrett, The Only Ones. J'adore Adam and James. Voilà, ça, c'est mon grand truc. Je sais pas quoi te dire. Enfin,
et Daniel Dark aussi était très ouvert en fait sur la musique. Il écoutait tout en fait, beaucoup plus.
Même
la variété sur laquelle au début il crachait, on découvre dans ton livre que finalement il aimait bien Maxime Forestier, Joe Dassin.
Il aimait beaucoup les premiers Julien Clerc.
Ouais,
avec
Julien
Clerc.
Ouais.
Il me parlait de ça, de comment on dit aujourd'hui, les plaisirs coupables, en me disant de Joe Dassin où
il a repris les Champs-Élysées.
En me demandant ça. Est-ce que c'est pas un peu chiant de reprendre Joe Dassin? Et en fait, il craquait sur la même chanson que moi. C'est une chanson que j'adorais qui s'appelle Ça m'avance à quoi? Et il a pas pu la reprendre parce qu'elle était déjà réservée. Donc il a fait les Champs-Élysées. Il aimait beaucoup Michel Delpech, les premiers. Voilà, des trucs comme ça. Mais forcément, si tu les réécoutes, il y a des choses intéressantes chez ces gens-là.
Évidemment. Non, mais il y a eu un mouvement de rejet quand le punk est arrivé. Il y avait une espèce de table rase.
Oui, mais c'était obligatoire.
De cracher sur la variété.
Parce que. Au-delà de la variété de la musique elle-même, il y avait un système mis en place qui faisait que rien d'autre pouvait passer, quoi. C'était compliqué. Et à l'inverse, un mec comme Bachung qui a réussi à s'infiltrer était plus ou moins rejeté par les rock'n'folk, les bests, qui le considéraient comme une espèce de... Et même dans les cours d'école, c'était presque un sujet de bagarre, quoi, tu vois, parce que c'était le traître.
Alors, Daniel Dark, ce qu'il y a bien dans ton livre, quand tu parles de lui, c'est que tu magnifies, mais tu idéalises pas. C'est-à-dire que tu n'hésites pas à montrer aussi ses défauts. Il était poseur, il était frimeur. On sait ce que peut faire un mec qui est quand même sous dépendance, ce qu'il est capable de faire pour de la drogue ou pour une fille. Enfin, je dis ça parce qu'à sa mort, on a eu l'impression qu'on nous adressait un portrait un peu de saint. Ça faisait bien marrer Eudeline et compagnie. Mais, donc toi, tu dis, voilà, il avait ses défauts, frimeur, poseur.
Moi, je dis pas ses défauts, je parle pas. Mais en même temps, maintenant, ce qui me fatigue le plus, c'est l'image de ce que tu me dis, de Toxico, de Clochard, d'Iceleste, d'Avachi, de Fracassé, quoi. Parce que ça, c'est vraiment... ça vient d'un tas de choses, de gens qui le croisent et qui te disent, c'était vraiment Enfin, il y avait quand même un truc de voyeurisme là-dedans, en disant dans quel état il est, enfin, etc. Daniel était capable d'ailleurs, de 2 heures à une autre, d'être effectivement d'avoir l'air de dans un coin dans la rue d'un clochard comme tu veux, et puis d'être. Mais c'était parce qu'il était au fond, quoi, vraiment, quoi.
Le personnage, la lumière de Daniel ressort d'autant mieux.
Ouais.
Quand tu peux montrer ses côtés obscurs.
Si
tu avais fait que le côté lumineux,
ça,
on y aurait eu une énigme, on n'aurait pas compris ce qu'il était.
Il avait des... Enfin, je sais pas si c'est des défauts, mais il avait des... De toute façon, il avait des rapports complexes avec les gens, donc forcément, c'est donc... Il fallait apprendre à le comprendre.
Concrètement, film, tu le vois par exemple, tu dis, mais comment je me mets, comment je me mets, et puis il se fâche un petit peu, parce que tu dis que c'est pas important finalement, alors que c'est toi qui cadre, enfin c'est toi qui filme, ou d'autres fois où il est un peu cabotin,
il te mettait sur la sellette assez vite, quoi.
Et il y a une scène où il se pique. Alors j'ai appris dans ton livre que c'est à sa demande que tu l'as filmé en train
c'est
de
pas,
se piquer.
C'est pas forcément, c'est qu'en fait je venais chez lui avec ma caméra, on passait des heures ensemble, et il m'a dit tu prends, vas-y, c'est marrant, fais film.
D'accord.
Voilà, quoi. C'était pas genre je veux que ce soit, ils s'en foutaient, mais c'est ce que je raconte aussi dans le livre, c'est qu'il m'a laissé complètement un libre accès à ça, mais très très vite, quoi. Et en sachant pas qui j'étais, enfin tu vois, c'était étonnant, l'espèce de confiance qu'il avait. Et c'est une scène, on a beaucoup réfléchi avant de la mettre dans le film, évidemment, quoi. Parce que je veux absolument pas faire l'apologie de ça. Mais en même temps, ça me semblait important parce que c'est beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a quand même eu. Notre génération a quand même été sur ce mythe de la cam, etc., quoi. Tu vois.
Ouais, rendant la drogue sexy.
Ouais, ouais, bah ouais.
Un truc
ouais.
Fashion après, presque.
Ouais, maintenant, elle est devenue sociale à un moment donné, et puis maintenant, il y a une espèce de... Enfin, je veux dire, c'est... les nouveaux héros, c'est les mecs du MMA, quoi, tu vois. Donc, c'est, on n'en est plus là, quoi. Mais, donc voilà, on avait... J'avais envie... Donc, on l'a laissé parce qu'on voulait montrer ce que c'était réellement, quoi. Voilà, ce que c'était réellement.
Fred, toi, quand tu l'as rencontré, Daniel Darc, il en était où dans sa carrière? Et qu'est-ce qui se passait? Et comment, toi, tu le percevais à ce moment-là?
C'est pas une question facile. Quand j'ai rencontré Daniel, on était quand, enfin je l'ai rencontré plusieurs fois puisqu'en fait ça s'est pas fait en une fois. J'ai parlé des années 80. Après j'ai fait avec mon groupe sa première partie en 89 au New Morning. Ensuite Daniel, comme moi j'étais parisien, que je sortais quand même dans les endroits. Plutôt rock ou musicaux, je le croisais très souvent. Daniel, c'était quand même une figure emblématique de Paris. Tout le monde a croisé Daniel. Donc, quand je vais finir par travailler avec Daniel, on est voisins et je le vois. Donc, je suis d'accord avec Marc Dion qu'il était très multiple et très complexe comme. C'était une personnalité qui pouvait être aussi très changeante. Donc, il pouvait un jour être vraiment sur sa santé, ou parler de tai chi. Il pouvait être aussi, évidemment, très. Aller assez loin dans ses recherches de spiritualité ou de culture. Il était aussi très curieux de votre propre culture, donc c'était un interlocuteur très intéressant. Quand avant que je travaille avec lui, ça fait longtemps qu'il n'a plus rien enregistré. Et
c'est presque 10 ans, non?
Ouais. Et moi, ça m'étonne. Et je ne comprends pas d'ailleurs. Et je trouve aussi que c'est un gâchis. Et puis, mais je n'en comprends pas les raisons. On n'est pas intime. Je le vois. Quand je le vois passer, même je lui parle pas à ce moment-là. Un jour, un soir, je sors de chez moi assez rapidement et là, on se percute presque. J'allais manger une pizza après avoir travaillé, il devait être 22h, je travaillais à ce moment-là chez moi, et je lui ai proposé de venir boire une bière et manger une pizza avec moi, et il a tout de suite accepté, c'était aussi sa force, c'est-à-dire que d'un coup, on a discuté comme ça, et là a germé en moi cette idée de qu'on puisse faire quelque chose ensemble, mais sans que je lui demande rien. Et puis un jour, un ami me demande si je peux pas écrire une chanson pour Dani. Dani venait faire un comeback fulgurant avec cette magnifique chanson « Comme un boomerang » écrite par Serge Gainsbourg. Ce duo que maintenant tout le monde connaît entre Dani et Étienne Dao. Et là, d'un coup, je me dis que c'est une bonne idée de proposer à Daniel d'écrire un texte pour une chanson pour Dani. Et ça a été le début de notre collaboration.
Et ça va donner Crève-Cœur.
Tout à fait.
Donc on va écouter un morceau, Inutile et hors d'usage, qui vient d'être pris par Pete Doherty sur l'album que tu viens de sortir.
Oui, par moi et Peter Doherty.
Voilà, par toi et par Pete Doherty. Donc on l'écoute. Ça, c'est la version originale, hein.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Suis-je inutile et hors d'usage? Ou peut-être un peu trop amer? Sans perle, simple coquillage? Sur le bord de la mer, déjà en moi je sens l'automne qui doucement ronge mon corps. L'affreuse angoisse m'emprisonne. Combien de temps jusqu'à la mort? Je sens la tragédie qui sonne.
d'or, l'océan abonde. Faudrait-il donc que j'abandonne? Vaut-il mieux compter les secondes? Le soir est noir, la nuit est blanche. Il est trop tard pour les remords. Soudain, je sens mon cœur qui flanche. Mais ma mémoire résiste encore. Dans le ciel viennent les nuages. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Bientôt sera l'heure de l'orage. Bientôt j'entendrai le tonnerre. L'automne se transforme en hiver. J'aurais bien aimé être sage. Il est trop tard, je désespère. Suis-je inutile et rendu sage?
Vous êtes toujours sur Radio Aligre 93.1 dans l'émission La vie est un roman de Yves Tanret. Nous sommes en présence de Marc Dufaux qui vient de sortir un livre aux éditions Le Boulon qui s'appelle Close Up Daniel Darc, je me rappelle, et avec Fred Lowe, qui vient de sortir deux albums simultanément. Un album qui s'appelle Parenthèse Enchantée, où c'est toi et Daniel, et un autre album hommage de duo. C'est fameux. On aura l'occasion d'en reparler ensemble pour une autre émission, j'espère.
Avec grand plaisir.
Où tu seras invité. Revenons un petit peu au livre de Marc. Dont Marc, toi, tu fais un constat d'échec quelque part dans ton livre. Mais Fred, moi, je l'ai entendu dire, le succès, c'est un échec qui a échoué. Alors, comment tu comprends la phrase de Fred? Fred, t'as pas le droit de répondre.
Écoute, si tu m'entraînes sur le terrain des philosophes, ça va être compliqué. Hein, va falloir que je... alors, c'est quoi le succès?
Non, excuse-moi, la question est un peu longue.
Oui, allez.
Non, c'est que tu as quand même réussi tu as commencé à faire plusieurs films. Tu as écrit des livres, tu es romancier, tu es critique. Ouais. Donc, ma question plus directement, plus intéressante. Pour combattre ce dont on parlait tout à l'heure, tu sais, l'hypnose, l'envoûtement généralisé et tout. Qu'est-ce qui est le plus fort pour toi? C'est l'image ou c'est le verbe? Maintenant, à ce moment-là de ta vie.
Ouais, après, ça dépend si tu parles dans l'époque ou dans ce que tu lègues, tu vois. Je pense que l'écriture, quand même, c'est ce qui reste, quoi. L'image, l'image, c'est l'image, quoi. C'est quand même aussi quelque chose qui est né au XXe siècle, enfin, je veux dire. Donc, c'est un art très récent. Et l'écriture, c'est quand même très ancré dans l'humanité depuis le début de l'écriture, quoi. Puisque de toute façon, l'histoire commence avec l'écriture. Donc, je pense que c'est quand même l'écriture qui l'emporte, si tu veux que je fasse un choix. Voilà. Je te disais tout à l'heure que je faisais plus tellement de films et j'ai pas fait de choix non plus. Enfin, voilà, ça se présente comme ça. C'est que pour faire un film, il faut un engagement du temps et il faut beaucoup d'argent, quoi. Même si tu. Pour ce que tu as envie de faire, ce que j'aurais envie.
J'ai quand même senti dans ton livre que tu avais encore plein de matériel, plein d'archives, même des textes de Daniel.
Ah ouais, alors il y a deux trucs. Ouais, j'ai récupéré forcément dans ces carnets, mais plus intéressant, il y a une masse de textes tapés à la machine qui sont. Il faut faire un peu de tri, de ménage dedans, mais ça forme vraiment une œuvre littéraire, c'est pas un roman. Parce qu'il n'a jamais abouti son roman, Daniel, j'en parle.
L'Ange glacé,
voilà, qui a été une espèce d'Arlésienne ou de truc qu'il a poursuivi toute sa vie, qu'il n'a jamais pu terminer.
Est-ce que tu crois qu'il l'a commencé ou...
C'est ce que je dis dans le livre. Alors, moi, je n'ai pas connu Daniel en 89 quand il en parle. Il avait réellement un éditeur, d'ailleurs, que j'ai rencontré après. Réellement, c'était signé. Donc, qu'est-ce qui devait le sortir ? C'était l'époque où... C'est aussi, ça correspond à une époque où tous les mecs qui faisaient du rock étaient fascinés par la littérature, étaient des grands lecteurs, des mecs cultivés, etc. Et voulaient tous sortir des romans. Le premier, ça devait être Guillaume Serpe avec Les Chérubins électriques. Il y a eu Udlin, etc. Et Daniel avait donc... Alors, je ne sais pas si cette première version existait. En tous les cas, il a raconté le synopsis et il était achevé. Alors, il m'a parlé ensuite... Il y a une deuxième version qui m'affirme qu'on a perdu ensemble... En faisant un déménagement, il affirme l'avoir lu. Je me souviens qu'il a oublié un paquet de textes, mais je pensais que c'était des textes. Voilà. Mmh. Et puis ensuite, il a recommencé, il n'a jamais terminé ce roman. Quoi. Par contre, il y a vraiment une masse littéraire qui existe et qu'il faudrait publier un jour. Et pour les images, c'est pareil. J'ai quand même fait un peu le tour de ce que j'ai fait, mais il reste un truc qui me... On verra. Mais on avait fait un concert à l'entrepôt. En 94, un truc un peu hybride avec de la vidéo, j'avais téléfilmé, on avait fait toute une mise en scène, etc. Donc j'ai les images de ce film qui s'appelle White Trash et j'ai filmé également la soirée. Donc il avait fait deux sets ce soir-là avec Georges et Georges Dilanet Bissounis, voilà, à la guitare. Et j'aimerais éventuellement faire un montage de ça entre les deux, puisque j'ai aucun morceau, tout à son entier. Je ne voudrais pas faire une captation de live, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment faire une espèce de film, pour le coup, expérimental, au moins très libre dans la forme. Voilà, pas forcément un long métrage, etc. Mais c'est un projet juste en l'air, parce que, je veux dire, pourquoi et pour qui, quoi, voilà. Donc,
Ça me renvoie à une interrogation que j'ai en lisant ton livre. Ouais. Ça rejoint aussi ce que vivent beaucoup de musiciens à l'époque et beaucoup d'artistes au XXe siècle, c'est que parfois on a l'impression que l'œuvre n'était pas si importante que ça, c'était ce qu'elle permettait de vivre. C'était un rapport entre l'art et la vie, et une confusion ou une fusion entre les deux. Et finalement, le résultat importait peu, c'est-à-dire que le disque, l'enregistrement, le film, c'est comme tu disais, c'était une voie plus qu'une destination. Mmh. Donc, est-ce que pour toi, le cinéma, c'est une manière de vivre les choses plus intensément, comme le rock l'a été pour Daniel ?
Tu veux dire de faire du cinéma ou
oui,
de ce que tu laisses
Non, le fait de si tu veux d'avoir une caméra, ça permet de voir autrement la réalité, et
ouais,
c'est pas mais... nécessairement pour réussir un film.
Ouais, mais très bizarrement, tu vois, moi je m'emmerde assez vite sur les tournages.
Ouais.
Tu vois, tous les temps de préparation, ça casse mon rêve de cinéma. Quoi.
D'accord.
Et je pense Daniel d'ailleurs devait être un peu pareil parce que. Quand tu marches dans les rues, tu passes du temps à... j'en parlais il n'y a pas très longtemps. Tu t'inventes une espèce de film. Enfin, tu es quand même... Que tu le veuilles ou non, tu te projettes dans une espèce... Et tout semble... C'est comme un film dans ta tête, il est facile à faire, quoi. Et quand c'est là où la réalité frappe fort, quoi. C'est-à-dire que il faut un plan, il faut poser la caméra, il faut charger le chargeur, il faut mettre la lumière... Et moi, j'aimais travailler vite, j'aimais aller vite, parce que c'était... Donc l'expérience cinéma, enfin le tournage même, mais pas forcément le truc qui m'excite le plus, que j'aime le plus. J'aime bien le montage, etc. Ouais. Donc,
C'est tout ce qui est avant ou tout ce qui est après qui est presque plus important.
Je suis presque à me dire qu'à partir du moment où j'ai rêvé le film, la fiction que j'ai voulu voir, voilà, c'est fait, il est fait le film. Tant pis, il n'existe pas, mais il est fait. Quoi. Ça fait des années que j'ai un scénario de road movie. J'ai la fin, j'ai tout, et ça me. Je me dis, mais s'il fallait le tourner, il faudrait. Mais voilà, quoi. Donc j'aime. C'est une approche, chacun la sienne, quoi.
C'est marrant parce que là-dessus, moi, je suis complètement opposé à ça. Moi, pour moi, on est ce qu'on fait. Et Daniel, peut-être là-dessus, et c'est peut-être. On était vraiment proches, sans même se connaître, Marc. Daniel et moi, c'est qu'à la fois, Daniel aimait bien aussi le geste rapide un peu, il parle même d'une éjaculation,
ouais.
Mais à la fois, il aimait aussi les détails. Et donc, tout ce que tu as filmé, Marc, je comprends à la fois ce que tu dis, mais à la fois tu... Tu t'as quand même été loin aussi dans tout ce que tu... Moi, j'ai pris conscience dans ton livre. Et peut-être qu'avant, je ne suis pas à ce point-là. Comme tu as filmé, comme tu as été opiniâtre, quand tu montes les films la nuit en DIY, mais quand même, Je veux dire, tu es en DIY, mais où tu es modeste, c'est que tu te donnes quand même malgré tout toujours les moyens de trouver du bon matériel, d'avoir une très bonne équipe, d'avoir des gens fidèles, d'avoir un sujet qui est Daniel. Et donc, tu vas quand même très loin malgré tout. Je pense que malgré tout, tu es toi-même aussi... Tu es ce que tu as fait aussi, et es ce que tu fais.
Non, mais l'œuvre, elle est là. On a les films, on a le livre. L'œuvre
est vraiment là.
On ne pourrait pas en parler.
C'est même pas par rapport à ce que tu as dit, Marc. Je ne suis pas d'accord. C'est par rapport à ta question. C'est-à-dire que
je parlais d'une mode à l'époque.
Je pense que le punk, ou comme n'importe quel mouvement, évidemment qu'il est dans l'instant et qu'il se nourrit de l'énergie des gens au moment où ils le vivent. Mais ce qui reste, c'est quand même ceux qui ont abouti une œuvre.
Bien sûr.
C'est-à-dire que quand tu écoutes, quand tu lis le livre de Marc, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a une œuvre à la fois d'amitié, mais aussi de parcours, mais aussi de cinématographique, mais aussi littéraire. Et je trouve qu'elle est vraiment aboutie, en fait.
C'était plus, si tu veux, dans cette idée debordienne, situationniste, puis de mouvement dadaïste qui est très loin, ancré dans le XXe siècle. C'était plus là-dedans. Et c'est pour ça que les punks, finalement, ont retrouvé ça. Ils ont retrouvé Dada, ils ont retrouvé même des mouvements encore antérieurs, Cabaret Voltaire, tout ça. Et l'idée, c'était... moi, j'ai connu plein de groupes sur scène qui ne voulaient pas laisser de traces, qui ne voulaient pas rester. Ils voulaient vivre l'instant présent à fond, le plus intensément possible. Et le fait même de vouloir faire une captation ou d'enregistrer ou d'avoir un projet de réification, pour parler de politique années 60, pour eux, c'était un obstacle à leur art. Parce qu'ils faisaient une fusion totale entre l'art et la vie.
Alors, c'est un obstacle ou une trahison ? Parce que tu vois, il y a aussi... Après, ça devient presque dogmatique.
Moi, je suis absolument heureux que les disques soient restés et les livres aient été écrits et que les films aient été faits, si tu veux, parce que sinon on ne comprendrait rien de ce qui s'est passé. Mais je comprends la démarche un peu parfois, on peut appeler ça nihiliste, parce que Daniel Darc avait un côté un peu aussi des fois destructeur,
c'est sûr.
De sabordage. Toi, tu parlais dans ta démarche, tu as l'honnêteté de dire, bon, c'était du laxisme, peut-être de la lâcheté, peut-être de j'ai pas voulu voir la réalité. Tu sais, quand tu parles sur la production, tu dois t'intéresser à comment on fabrique un film pour le financement et compagnie. Je ne veux pas m'occuper de ça, enfin, c'est pénible, c'est douloureux.
C'est surtout que je l'ai jamais pris pour un truc de... Je me fous du business. C'est surtout que je considère que c'est des choses que tu dois avoir si tu veux faire du cinéma, vraiment. Et le constat était évident, c'est où je devais les apprendre, parce que je ne les avais pas naturellement, où j'arrêtais, quoi. Et j'ai plus ou moins arrêté, parce que, voilà, comme il faut une certaine poigne pour tenir un énorme groupe. Après, c'est une question d'individu. Moi, je suis pas là-dedans. Et il faut s'en rendre compte un peu à temps. Mais tu me parlais de gestes, etc. Par contre, quand j'écris, tu vois, je prends un temps fou pour travailler. Ça, c'est vraiment... j'ai une autre démarche que par rapport à l'image, quoi. J'ai pas la même chose.
Mmh. Alors, dans ton livre, on voit quand même que tu es cinéaste dans ton écriture. Ah bon. Je trouve que tu es très doué pour les portraits. Et il y a Marie-Rose, il y a la famille de Daniel, il y a aussi même le producteur Véreux. Donc tu ne veux pas dire son nom, on pourra le dire à l'antenne si tu veux.
Intérêt. Aucun intérêt. Puis Véreux, je ne sais pas, mais c'était juste qu'il n'a pas fait son boulot. Quoi.
Il n'a pas fait son boulot, un peu...
malhonnête quand même. Hein.
Très malhonnête.
Ouais. Il était borderline.
Et donc tu es doué pour les portraits, et des portraits contrastés. Et donc on revient à Daniel Darc, parce que tu réussis bien aussi ce contraste. Et ça rejoint ce que dit Fred Lowe sur la complexité du personnage. Ouais. C'est que Daniel aussi, il avait beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Des fois, il adorait faire le clown. Il y avait la joie. Ouais. Beaucoup de gaieté, ça c'est un truc qui apparaît pas tout de suite.
Bah non, mais heureusement on en parle de plus en plus de l'humour de Daniel, mais c'est l'élégance du désespéré, de toute façon le rire. Mais c'était Fred peut en parler aussi, c'était des moments de fou rire incroyables. Et puis il a alors la drôlerie et puis une répartie fantastique, quoi. Espèce de et d'ailleurs fallait suivre parce que ça pouvait être cruel aussi d'ailleurs de temps en temps. Il pouvait se montrer assez cruel, mais par contre il pouvait être très drôle. Forcément, mais je pense que ça va avec le reste, quoi, tu vois. Ça va avec le reste parce que c'était aussi ça provenait de son détachement, quoi, espèce de truc un peu détaché qui lui permettait de rire de beaucoup de choses et de choses un peu obliques à chaque fois, quoi. Donc je raconte il y a vraiment plein, j'ai un tas de souvenirs, mais j'ai pas voulu truffer le livre de trop d'anecdotes parce que
ça n'a pas toujours de l'intérêt, quoi. J'ai des
anecdotes, on va, si tu veux bien, écouter un morceau qui témoigne de cette joie de vivre qu'il a malgré tout dans son œuvre. On va écouter C'est moi le printemps, un morceau enlevé.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je suis né en mai, c'est moi le printemps. D'un ventre épais, j'ai foutu le camp. Mais scarifié, mais en pleurant, mais sacrifié, mais en passant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. J'ai rien demandé, ouais, mais pourtant j'ai déchiré à grands coups de dents le fil d'acier m'emprisonnant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps. Moi qui rêvais d'hiver tout blanc.
C'est moi le printemps. Et il faut savoir que c'est tiré d'une phrase d'un roman de Céline,
ouais,
de Mara Crédit.
Ouais. Mais Daniel est né le printemps. Hein. Il est,
alors, je ne vais pas rentrer dans un grand débat, mais il aimait des auteurs un peu, quand même, limite. Il y a, on peut dire, Céline, Drieux, Morand. C'était que des antisémites. Et donc, il faut rappeler que Daniel était juif par sa mère et par son père.
C'était surtout des grands auteurs.
Ouais, par son père, pardon.
C'est son père qui était juif. Ouais, ouais. Mm-hmm.
Et sa grand-mère déportée.
Ouais, et sa mère à la libération qui a eu des soucis.
Qui a été tondue, voilà. Parce qu'elle est tombée amoureuse d'un médecin.
Ouais, voilà, un persécuté, une martyre. Enfin,
et
voilà,
tu, tu vois, tu fais bien l'affiliation dans le livre. Mmh. Tu dis qu'il vient de cette histoire-là.
Bien sûr. Bien sûr, bah, ça te fait une enfance qui est déjà pas compliquée. En plus, ses deux parents ont des personnalités. Avec Daniel, voilà, on se retrouvait beaucoup sur l'enfance. Avec Daniel, dans des façons différentes, mais on a vécu à peu près le même type d'enfance avec un peu dur, un peu voilà, avec une mère très compliquée, tout, vraiment pareil. Mmh.
C'est un père distant, un peu violent.
Plutôt violent, distant. Ouais. Et avec chacun son histoire. Et donc on se retrouvait là-dessus, on en parlait. Ça, c'était vraiment un sujet qu'on parlait souvent. Et moi, j'ai très bien. Enfin, son père, je l'ai connu plus brièvement, mais c'était un type toujours très en retrait. Par contre, j'ai très très bien connu sa maman, quoi. Et évidemment, on la trouvait charmante, etc. Parce que c'était une vieille dame. Alors, c'était vraiment la vieille dame indigne, quoi. Tu vois. Et Daniel en a souffert, ouais, forcément, quoi. Et j'étais parmi les amis, le seul qu'elle aimait bien, tu vois. Bah, je raconte qu'à l'époque, il y avait que aux années 90, il y avait juste Georges, Ria et moi. Donc
Georges Betsounis, le guitariste, qui l'a accompagné sur Nijinsky.
Oui, qui a travaillé des années, qui était surtout
comme un frère pour Daniel, quoi. Mmh. Voilà. Et donc, j'étais un peu le seul qui avait qu'elle aimait bien, voilà. Donc j'ai beaucoup parlé avec cette femme. Et c'est également quelqu'un de très compliqué, quoi.
Et j'ai découvert quelque chose dans ton livre qui m'a fait comprendre pourquoi tu étais à ce point fasciné par Daniel Darc. C'était pas que pour moi une histoire d'amitié. Je pense que tu vois, il y avait quelque chose en lui. Tu le dis, c'est toi-même qui le dis très précisément. Oui. Son visage reflétait complètement les mouvements de son âme.
Ouais.
Et donc, filmer ça, c'est assez incroyable. Et on le voit bien dans tout ton travail. Des fois, tu prends vraiment gros plan. Alors que tu n'aimes pas les talking heads, normalement, en tant que procédé de documentaire ou de cinéma. Et donc ça, c'était, il était transparent quelque part. Il y avait la complexité du personnage, mais finalement, on voyait bien tout ce qui passait en son cœur.
Ouais, c'est surtout ça, c'est qu'il y avait un des... Fred en parlait tout à l'heure, c'est que d'une heure à une autre, les humeurs changeaient et c'était très mobile, quoi. Le visage était très mobile. Je raconte une nuit, on a fait un tournage qui se passe complètement chaotique où Daniel... Je me dis, demain matin, ça va être catastrophique. Et il arrive, il a un teint exceptionnel, quoi, tu vois. Tu te dis, comment c'est une capacité de régénération aussi. Ça va avec l'âme, avec son corps. Ouais, il avait vraiment un drôle de... Ça fait partie de ces gens qui, effectivement, dont les visages sont changeants, quoi. D'un jour à l'autre et parfois même d'une heure à une autre. Ouais.
Alors, j'ai une dernière question pour vous deux, pour Fred Lowe et pour Marc Dufaux. Vous avez bien connu Daniel Darc intimement, longtemps, vous avez travaillé avec lui, tous les deux. Maintenant, 10 ans après, c'est quoi pour vous? C'est un fantôme? C'est un esprit ou c'est un ange bienveillant? Marc?
Ah ouais, bah moi, un ange bienveillant, je ne sais pas si bienveillant, mais c'est une présence permanente. Ouais. Mais c'est... En plus, on croit aux mêmes choses, on croyait aux mêmes choses, donc forcément, voilà.
Et oui, il faut dire qu'il était chrétien. Protestant.
Ouais.
Toi, t'es chrétien, t'es orthodoxe?
Non. Ouais, enfin, je suis protestant d'obédience. Ouais,
d'obédience. Ouais. Okay.
Enfin, non, culte familialement. Voilà.
Donc la foi, c'était important. Et, il faut le rappeler. Ça. C'était très important.
Ouais, voilà.
Et donc puis, c'est une âme présente.
Ouais.
Voilà. Ouais, et pour toi, Fred?
J'ai du mal à répondre à ça.
Est-ce que tu sens sa présence sur scène parfois?
Ah mais disons que déjà, enfin. Moi, je dis toujours que j'ai travaillé avec Daniel et que je n'ai jamais prétendu qu'on était amis.
Dans le film, dans le film de Marc, tu dis que c'était un frère. Vous aviez un rapport de fraternité.
Oui, c'est différent pour moi. Évidemment qu'on a été, on a été, alors dans ce cas-là, d'un rapport très fraternel. On a ensemble. Créer une œuvre qui, comme je dis souvent, a changé. Je crois que c'est Daniel qui m'a sorti ça un jour, que j'avais changé la fin de sa vie et lui, il a changé le milieu de la mienne.
D'accord, merci beaucoup à Marc Dufaux et à Frédéric Lowe d'être venus pour parler de Daniel Darc.
Merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup surtout à Enrico, qui est derrière la vitre, pour son travail remarquable. C'était à l'IRFM 93.1. Merci à vous, au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.